Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice avec Philippe Sands, avocat et écrivain. Après retour à Lemberg, Philippe Sands poursuit sa réflexion sur le crime contre l'humanité et le génocide dans un nouveau livre intitulé « La filière ». Ces deux ouvrages se complètent et en réalité ils poursuivent le même projet de comprendre l'énigme du mal radical à partir de la vie familiale affective même, pourrait-on dire, aussi bien des victimes que des perpétrateurs, des auteurs, des atrocités. Et dans ce dernier livre, Philippe Sands suit le destin public et privé d'un nazi de haut rang, Otto Wächter, avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, mais aussi et surtout, j'allais dire, après, dans sa fuite. Bonsoir Philippe Sands.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter, dans le retour à Lemberg, vous mentionnez à la fin cette personnalité et vous mentionnez surtout son fils et une dynamique familiale qui vous intriguait, mais vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Pourriez-vous nous présenter qui était Otto Wächter ?
Otto Wächter, né en 1901, avocat, il a fait ses études au fac de droit à l'université de Vienne, dans le même cours même que Herr Lauterpacht, qui était l'inventeur du concept des crimes contre l'humanité.
Qui était un juriste absolument majeur dans le droit humanitaire du XXe siècle.
Absolument, le grand prof de droit international du XXe siècle. Même au fac de droit, déjà au fac de droit, Otto Wächter devient membre du parti nazi autrichien en 1923.
Avec le Deutsche Club.
Avec le Deutsche Club de son papa, un papa ultranationaliste, antisémite et très déprimé, avec la disparition de l'Empire autrichienne hongroise, et qui veut un peu refaire les choses. Leur rêve, c'est une alliance avec l'Allemagne. Mais c'est pas permis par le traité de Versailles.
Mais c'est en pleine nostalgie, on est dans les suites du traité de Versailles, de la défaite de 18 qui n'est pas acceptée, qui n'est pas comprise, dans le démantèlement des empires et dans cette immense nostalgie qui est celle de la Vienne des années 20.
Exactement, une nostalgie qui mène Otto Wächter à devenir avocat qui... la plupart de son travail, fait un peu de droit commercial, mais la plupart de son travail, c'est pour défendre les intérêts du parti nazi en Autriche. En 1929, il rencontre une jeune femme, Charlotte Blackman, et il se marie en 32. Et en 34, Wächter est impliqué, en fait, il mène l'attentat
de Chancelier Dollfuss
et il doit disparaître.
Mais en fait, c'est pas lui qui le tue. En fait, le Chancelier Dollfuss est tué par quelqu'un d'autre.
Oui, il est tué par un homme qui s'appelle Planquet. Mais en fait, c'est Wächter et deux autres qui ont organisé. C'est le leader politique du putsch de 34. Il disparaît. Il arrive à Berlin. Il passe 4 ans à Berlin où il travaille comme avocat. Il devient membre du SS et en 37, il rentre dans le cabinet de Monsieur Himmler. Il travaille dans le même bureau.
Donc très proche de Himmler.
Très proche de Himmler, de Eichmann, de Karl Haas, tous ces gens. Il travaille pour le SD, mais comme un juriste, sur les matières de sécurité.
Comment est-ce qu'on peut travailler ? Je rappelle que vous êtes professeur de droit et que vous enseignez à University College, le droit international. Vous êtes avocat, vous défendez des causes, donc vous êtes tout ce qu'il y a de plus juriste, Philippe Sands. Comment est-ce qu'on peut être juriste dans le bureau de Himmler et de Eichmann?
L'Allemagne en 33, après 33, c'est un pays d'état de droit. Et ils avaient leurs règles, ils ont choisi leurs avocats très attentivement et ils ont sélectionné les hommes comme Otto Werchter, pour qui l'idéologie était d'une grande importance. Et là, la question est une très grande question pour nos jours aussi. Quand on choisit un avocat, pourquoi est-ce qu'on choisit son avocat? Au Royaume-Uni, où je travaille pour la plupart, c'est la qualité d'indépendance d'esprit qui est le plus important. C'est-à-dire, on choisit pas l'avocat parce qu'on connaît la réponse.
Oui,
déjà en 1937, quand Werchter travaille pour Himmler, c'est un homme qui va donner la réponse que Himmler veut. C'est pas un juge, pas un juriste indépendant.
C'est ça. Parce que même, alors, je fais une petite digression, mais souvent, en France, et je pense à la même chose au Royaume-Uni, on choisit comme avocat quelqu'un qui ne partage pas
absolument
les idées de son client.
Absolument.
Pour faire une meilleure défense, plus objective.
Absolument d'accord. Moi, je suis avocat dans un procès international et on me demande de construire une équipe. Je ne veux absolument pas les gens qui pensent comme moi. Je veux des gens qui pensent contrairement à moi pour créer une équipe qui fonctionne mieux et qui sera plus efficace. Mais quand un État perd la voie avec le droit vraiment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence à choisir des avocats qui donnent les réponses qu'on veut. Malheureusement, ça se passe au Royaume-Uni en ce moment. Très récemment, le Royaume-Uni, pour la première fois dans son histoire, a mis devant le Parlement un projet de législation qui était, sur sa face, clairement contraire au protocole pour quitter l'Union européenne. C'est clair, c'était un projet de loi qui était en violation nette et claire avec le droit international. Ils ont trouvé un avocat pour signer, pour dire non, oui, ça va,
ça,
on peut le faire.
Mais c'est une exception que absolument dérogatoire. Bon, alors que dans l'Allemagne des années 30, il y a tout un équipement théorique et juridique de ce qui va être la solution finale, ça va venir après, de la Deuxième Guerre mondiale, de la sélection des gens selon leur race, j'emploie les mots des nazis, et donc tout cela est mis en texte juridique par Otto Werchter.
Voilà, et je me souviens aussi des mots hallucinants de Hans Frank, qui deviendra le patron de Otto Werchter, le futur gouverneur général de la Pologne occupé, nommé par Hitler, qui donne une conférence un jour où il dit les mots « Le droit, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que dit le Führer. » Et voilà l'état de droit en Allemagne dont travaille Otto Werchter. Alors, en 1938, il y a un changement, c'est qu'il y a l'Anschluss. Les Allemands rentrent en Autriche, la femme de Werchter rentre d'abord de Berlin, elle arrive à Vienne, elle organise pour que son mari peut retourner. Ils sont tous les deux à Vienne le moment où Hitler arrive et ils sont à côté de lui. Charlotte écrit dans les archives que j'ai obtenues grâce à leur fils Horst qui m'a tout donné, 10 000 pages d'archives personnelles, de lettres. Elle écrit « J'étais à un mètre du Führer, c'était le jour le plus magnifique de ma vie. »
C'est une consécration personnelle pour eux parce qu'ils sont près du Führer. C'est une consécration de leur idée parce qu'on va réunir l'Autriche et l'Allemagne.
Finalement.
C'est une consécration du nationalisme, ce nationalisme si particulier qui veut promouvoir et cultiver la race allemande, la race aryenne plus exactement, et la germanité.
Absolument. Et c'est les hommes comme Werchter qui vont le faire, mais aussi ils ont l'appui, le soutien de leurs femmes. Et on reviendra peut-être... Alors,
on va revenir, parce que tous les deux, Hans Frank et Werchter, c'est ça qui est très intéressant dans vos études, ont une personnalité particulière.
Il ne faut jamais oublier les femmes et les maris. Ce jour, le 15 mars 1938, c'est un moment clé dans cette histoire, dans la filière. Pourquoi ? Après que Hitler quitte la scène, Charlotte et Otto descendent le grand escalier en marbre. Je l'ai vu moi-même, je l'ai descendu moi-même. Il arrive en bas et on le sait parce que Charlotte l'écrit plus tard ce qui s'est passé. Otto tourne vers sa femme et il lui dit « Ma chérie, j'ai un problème. Je dois décider maintenant quoi faire. J'ai deux possibilité. Je peux continuer comme avocat, je vais faire une belle carrière, on aura de l'argent, on aura un certain prestige. Ou l'autre possibilité, notre ami Arthur Seyss-Inquart, qui est le premier...
Oui, c'est un très grand nazi qui va être comparaître au procès de Nuremberg. Oui.
Absolument, le gouverneur du Pays-Bas m'a offert une position dans son gouvernement, secrétaire d'État. Ah, quel boulot, c'est d'enlever tous les juifs et tous les ceux qui sont contre nous dans le domaine politique de leur position, de leur fonction publique. Tout le monde, les juges, les professeurs, les facteurs, tout le monde qui est en situation de fonction publique, on doit les enlever.
C'est-à-dire qu'il occupe la fonction la plus idéologique, la plus, celle qui est la plus criminelle au regard du droit humanitaire et des droits de l'homme.
Tout à fait.
C'est lui qui en est chargé.
Il en est chargé et c'est lui qui personnellement signe les lettres. Il envoie tous les lettres. Ex, je vous enlève de votre poste. Y compris parmi ces 16 000 individus, deux de ses propres professeurs à l'université, faculté de droit à l'université de Vienne, deux professeurs de droit commercial, des hommes, y compris le doyen, même le doyen qui a signé son certificat aux années 20, au fac, c'est lui qui les vire. Ils sont virés, ils sont envoyés à Theresienstadt et ailleurs, et un an plus tard, ils sont morts.
C'est ça. Ça évoque c'est incroyable d'inhumanité, d'ingratitude, et ça évoque d'ailleurs le sort des profs de droit de Lemberg, sur laquelle vous avez écrit dans le retour à Lemberg. Et il y a cette anecdote que vous rapportez où son père, son propre père, lui demande une dérogation.
ça vient un tout petit peu plus tard. Juste pour compléter l'histoire, il passe un an à Vienne. Ça marche très bien pour lui, pas pour les juifs qu'il enlève.
Non.
Ça marche encore mieux pour sa femme qui adore cette nouvelle vie. Bayreuth avec le Führer, Festival de Salzbourg, les films de Leni Riefenstahl.
Parce que c'est des gens qui aiment beaucoup la culture.
Ils adorent. C'est des gens intelligents, c'est des gens cultivés, c'est des gens qui sont bien bourgeois, ils aiment tout ça.
Bel homme, en ce qui concerne,
oui.
Et belle Charlotte aussi, belle femme.
Oui. Il aime les femmes. Lui aussi, il aime les femmes. Alors, et ça, on l'apprend.
Oui, c'est
aussi,
ça. On va y revenir parce que c'était pas le cas.
On va revenir parce que les relations entre Otto et Charlotte, c'est ça. Pour moi, fascinant dans cette histoire. 39, la guerre commence le 1er septembre, et il est nommé en octobre gouverneur de Cracovie. C'est lui qui va créer le ghetto de Cracovie. Alors, c'est lui qui identifie les juifs, c'est lui qui
les regroupe,
crée un ghetto, c'est lui qui organise tout. D'un aspect très
y compris
juridique.
La déportation.
La déportation en Cracovie, ça vient un tout petit peu après. Lui, une fois qu'il est parti. Responsabilité pour Lemberg, on
D'accord.
arrivera.
Oui.
Pendant qu'il est à Cracovie, pendant qu'il est gouverneur, son père, l'ancien général von Wächter, Joseph, lui écrit, mon cher fils, j'ai un problème. J'ai un ami qui s'est marié avec une juive. Ils ont un enfant. Ils habitent maintenant à Cracovie et malheureusement, les lois raciales, tes lois raciales, ont attrapé leur fille. Est-ce que tu pourrais peut-être faire quelque chose pour assister à cette petite fille ? Le fils répond, mon cher papa, oui, j'ai regardé le dossier. Je dois te dire, très malheureusement, je ne peux rien faire. Les règles sont
alors
les règles.
Alors que c'est lui le gouverneur.
C'est lui le gouverneur. Et encore pire, il dit à son père, j'ai fait ce que je peux, mais je dois te dire, ces règles sont importantes. C'est une forme de protection contre ces gens pour nous.
Quel
je
cynisme.
Peux rien faire.
Quel cynisme quand même.
Les règles sont les règles. Non?
Oui.
Antoine Garabou.
Bien sûr.
Qu'est-ce
bien
qu'on
sûr,
fait quand on
mais, est... Bien sûr. Mais c'est, on est dans un ordre fou. Mais en même temps, on voit dans cette lettre, la dureté, parce qu'il a beau être affectueux avec son père, il ne lâche rien. Le cynisme, est-ce qu'il y croyait quand même?
Mais
quand...
avec une lettre, on voit plein de choses.
Mais...
On voit d'abord, une sorte d'humanité quand même, envers son père.
Oui.
L'amour
oui,
envers
oui, oui.
le fils, envers le père. Il écrit à son père, j'ai fait ce que je peux, j'ai regardé, j'ai travaillé pour toi, j'ai pris du temps là-dessus, voilà, j'ai un dossier, voilà, je t'envoie le dossier. C'est l'aspect affectif, il agit par l'amour.
Tout à fait.
Mais de l'autre côté, il y a la brutalité totale. Non, ces règles sont nécessaires et je suis pour ces règles, et je vais appliquer ces règles.
Alors, ça, Philippe Sands, c'est, les psychanalystes diraient, c'est un clivage. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui traverse tout votre livre. C'est la manière dont ils vivent dans une bulle avec des grands dîners, avec effectivement Bayreuth, avec Hitler, avec des collections, et une insensibilité absolue au sort de d'autres qu'eux, qui sont les Juifs, qu'ils connaissent très bien, comme ces deux professeurs qui lui ont enseigné peut-être le droit commercial ou le droit civil.
Absolument. Et c'est pour cette raison-là que je ne décris pas Otto Wächter comme un monstre. Parce que ce n'est pas seulement un monstre. Il fait des choses monstrueuses. Il agit d'une façon monstrueuse. Mais il agit aussi, parfois, comme père, comme mari, comme fils, avec amour, avec humanité. Et c'est là la complexité. Et ce qui, pour moi, est fascinant, avec un archive personnel et familial, c'est là où on découvre les relations entre l'humanité et la brutalité. Par exemple, deuxième lettre, décembre 39, encore à Cracovie, juste après qu'il est nommé gouverneur, il écrit une lettre à Charlotte, il dit « Oui, c'est fabuleux ici, je travaille, on a de la musique, on a de l'art, le philharmonique de Vienne est venu, les ministres sont venus, il y a quelques difficultés dans la région et demain je dois fusiller 50 Polonais. » En fait, c'est l'ordre personnel de Adolf Hitler. Alors, là encore, le clivage. Oui. Lettre d'amour à la femme,
c'est ça.
Mais en même temps, brutalité et criminalité, parce que c'est le premier acte de représailles en Pologne occupée, ordonnée par Adolf Hitler. Il y a deux soldats allemands qui sont tués, et l'ordonnance de Hitler à Wächter, c'est pour chaque Allemand, 25 Polonais.
C'est ça. Et alors, vous avez même produit des photos, parce qu'on a retrouvé des photos de la conversation. On voit tous ces dignitaires, nazis, alors qu'on exécute à côté d'eux les Polonais.
Alors là, on commence à comprendre un peu aussi la mentalité du fils. Alors, il y a la lettre dans l'archive. En anglais, le lettre dit « Tomorrow, I have to have 50 Poles shot ». Demain, je dois avoir fusillé 50 Polonais. Qu'est-ce qui est l'interprétation du fils Horst? Horst me dit, mais tu vois, Philippe, c'est pas qu'il veut le faire, il doit le faire. Il y a une grande différence entre les deux. Alors, ça me rend un peu furieux.
Oui, j'imagine.
Je me pose la question, ok, moi je vais apprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire. Ça prend quelques années pour arriver à la vérité. En fait, c'est une grande histoire polonaise. Toujours aujourd'hui, il y a une commémoration chaque année, dans une ville qui s'appelle Bochnia. Et pendant les recherches, j'ai lu une rumeur que quelqu'un avait pris des photos de cet épisode et a créé un album en quatre versions. Un pour Hitler, un pour Göring et un pour chacune des veuves des Allemands assassinés. Alors je me suis dit, je vais trouver ces albums. J'ai trouvé un album en Varsovie, dans une archive. Et dans cet album, on trouve, et c'est tout au fin du livre, les trois photos que j'ai mis dans le livre de la fusillade. Et plein au milieu de ces photos, on trouve Otto Wächter dans un manteau en cuir noir. Et c'est clair que lui, c'est le dirigeant. C'est ça. Qui est important.
Bien sûr. Alors, c'est très intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Très intéressant de voir le besoin de prendre des images qui sont comme une sorte de gratification aux donneurs d'ordre et aux victimes.
Mais quand on regarde les images qui ont été prises, on voit que les soldats qui sont là, les soldats allemands, ils ont leur caméra.
Oui,
eux aussi, ils prennent des photos.
C'est ça.
Et ça, c'est ce qui est vraiment hallucinant. Si on regarde la photo, la troisième photo en bas de la page 393, on voit que celui qui est juste à côté de Wächter, il a son appareil de photo.
C'est ça.
Alors on vient fusiller et on prend des photos.
Et on prend des photos. Ce qui montre quand même, alors là, je fais appel plutôt à tout sens de la psychologie. Ça veut dire ils n'ont aucune culpabilité. Il y a même une sorte de fierté. On veut prendre un souvenir de ce moment. C'est pas un moment pénible pour eux.
C'est l'application du droit. Il y a l'ordre qui vient du Führer, comme Franck a dit. Ce que dit le Führer, c'est le droit, c'est la loi. Et on applique ça. C'est notre rôle. Thank you.
France Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours avec Philippe Sands, qui a choisi de nous faire écouter un air de Bach de la Passion Saint-Mathieu, qui est interprété ici au chant par Laurent Naouri et au piano par Guillaume de Chassy. Mais pourquoi ce choix, Philippe Sands?
Parce que ça, c'est une pièce de musique qui joue un rôle très important dans la pièce qu'on a montée, Laurent, Guillaume et d'autres collègues. Sur Retour à Lemberg, on l'a fait à la Colline, c'est diffusé sur France Culture, vous pouvez tous écouter, mais là c'était enregistré il y a juste quelques mois, pendant le confinement on a fait un show sur l'internet, et c'est enregistré par Laurent chez lui. Laurent, c'est mon ami d'enfance, c'est mon cousin français.
Ah, très bien, très bien. Mais vous êtes français aussi.
Je suis français.
Voilà,
oui.
Absolument.
Ma maman est française.
Voilà. Et alors, parlons des femmes un peu, parce que parlons des femmes, et notamment Charlotte. Elle suit bien sûr Otto Wächter à Cracovie et puis à Lemberg. Un peu moins à Lemberg, elle arrive un peu en retard. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est ce sont les spoliations, les pillages. Où est-ce qu'ils s'installent à Cracovie?
Alors, pour commencer, pour moi, je dois dire, pour le cœur battant de la filière, c'est Charlotte Blackman,
oui.
Wächter. Pourquoi? Parce que on connaît beaucoup sur les hommes, sur les bourreaux, sur ceux qui ont tué. Mais je me suis toujours posé la question, et leurs femmes, qu'est-ce qu'elles savaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Comment ils agissaient? Elles acceptaient tout ça ou...
Est-ce qu'elles participaient d'une manière ou d'une autre à cela?
On sait maintenant, avec l'archive, qu'elles savaient tout. Et dans ce domaine, à mon avis, elle participait. J'ai parlé avant, un peu plus tôt, du moment où Otto exprime une choix. Avocat,
c'est ça.
Politicien. Et c'est elle qui dit politicien. C'est elle qui choisit ça parce que elle veut le pouvoir. Elle veut être au centre de l'activité. Elle adore les festivals de musique. Elle adore Bayreuth. Elle adore aller à Nuremberg, voir les grands événements. Et elle veut
vie.
Être au centre. Alors, les femmes jouent un rôle très important. Et Charlotte est absolument impliquée dans cette histoire. C'est une femme très cultivée, très... Elle a fait ses études dans l'art à Vienne avec Joseph Hoffman. Elle a fait du design... Des fabriques.
Elle est allée à Londres vendre
ses tissus, exactement. Et ça a très bien marché pour elle. Quand elle se marie, elle a des enfants, ça finit. Elle se met au service de son mari. Quand il y a des problèmes entre eux, quand il part à Berlin, elle reste à Vienne. Elle arrive 2 ans plus tard. Elle découvre que son mari Otto est en liaison avec une jeune Allemande qui s'appelle Trauter. Elle vire cette jeune Allemande. Elle devient elle-même enceinte, une fille est née. Qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte? C'est elle qui décide que la fille va s'appeler Trauter. Et elle écrit Incroyable. Une lettre à son mari qui dit, voilà, ça va t'apprendre une leçon. Ça, c'est la femme de Otto Wächter.
Et alors, sa belle-fille dit, elle est décédée en 1984, je crois.
85, oui.
85. Et sa belle-fille dit, elle est restée nazie toute sa vie.
Toute sa vie. Mais retour, oui, cette nazie, elle est restée nazie toute sa vie. Elle est restée aussi propriétaire de certains objets d'art qu'elle a obtenus pendant les jours d'or à Cracovie et à Lemberg. Alors, on a un exemple très particulier, parce que j'ai trouvé dans des archives polonais, magnifiques archives, une lettre du directeur du musée national de Cracovie, ça date de 1946. Il décrit comment, un beau matin de décembre 39, la femme, la jolie, la belle femme du gouverneur Wächter arrive au musée avec un morceau de papier sur qu'elle est écrite, je vous introduis à ma femme, elle a le droit de tout prendre.
Toujours le droit.
Toujours le droit, signé gouverneur Wächter. Ils ont tous très peur, elle rentre dans le musée, elle prend tout ce qu'elle veut, et après la guerre, on découvre que plein de choses ont disparu. Et moi, ce que j'ai constaté, qu'il y avait chez Horst, le fils, quelques objets. J'ai dit à Horst, comment tu peux garder ces objets? Et finalement, ça j'apprécie, il les a retournés en Pologne. Mais il m'a dit, tu sais quoi Philippe, ma mère, chaque fois, on était 6 enfants, et chaque fois qu'il y avait un mariage, ma mère donnait un cadeau d'un objet. Et ils ont toujours gardé ces objets. Alors, il y a au moins une des filles maintenant qui habite en France, il y a un objet
du
musée polonais,
de Cracovie.
Du musée de Cracovie, peut-être, qui est ici, à Paris.
Oui. Alors, c'est quand même impressionnant parce que ça, les enfants le savaient. Ou le supposer. Et ça veut dire qu'ils vivaient avec des objets de la spoliation.
Oui,
ils vivaient avec les produits du crime, parce que c'est, rappelons que c'est un crime contre l'humanité. C'est dans les conventions de Genève, la destruction d'objets d'art ou le pillage d'objets d'art, c'est un crime international.
Mais beaucoup mieux de ne rien faire et de ne rien dire. On ne veut pas ouvrir une porte là-dessus. Et là, j'évoque la réaction de la famille sur mes efforts sur 10 ans. Pour eux, c'est inconvénient que cet avocat franco-britannique arrive tout d'un coup avec une lumière qu'il met sur la vie des Werther. Parce que beaucoup mieux de passer en silence. On n'est peut-être pas tout à fait confortable d'avoir ces objets, mais ça va créer trop de drames si on commence à faire des choses.
Il y a quelque chose que le lecteur éprouve et éprouvera à la lecture de votre livre, Philippe Sand, c'est que Horst, qui est un homme sympathique, vous l'avez déjà dit, qui est un homme honnête, qui a une certaine honnêteté intellectuelle, refuse jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, de considérer son père comme un criminel.
Il est en déni total. Alors, on a parlé de ces photos que j'ai trouvées. Il regarde les photos, je montre les photos à Horst, le fils. Il y a un silence, il regarde, il réfléchit, il dit oui, mais ça ne prouve rien. Il était là. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a fusillés. Alors, chaque fois qu'il y a un document, par exemple, j'ai trouvé l'acte d'inculpation de 45 pour meurtre en masse Otto Werther.
De plusieurs centaines de milliers de juifs.
Centaines de milliers de Polonais et de juifs.
C'est ça, oui.
Et Horst prend ce document, écrit en anglais, alors il dit très bien, silence, il dit oui, mais c'est... Je sais que c'est marqué par les Américains, mais c'est un document polonais. Et les Polonais étaient contrôlés par les Soviétiques. Ce n'est pas un vrai document. Alors, chaque fois que je trouve une preuve, ce n'est pas une preuve.
Est-ce qu'on n'a pas une clé ici, Philippe Sands, que je trouve personnellement très intéressante parce que c'est très rarement fait, de l'absence de culpabilité de ces personnes, aussi bien des auteurs eux-mêmes que de leurs épouses ou de leurs enfants? C'est parce qu'il y a une telle affection entre eux. Cette affection les exonère de toute menace de perte d'amour. Et on sait que la culpabilité, c'est une menace de perte d'amour.
Alors là, on rentre dans un domaine qui est plutôt pour le psychologue ou le psychanalyste que le juriste. Mais je peux dire ce que sont mes observations.
Voilà.
Alors j'ai passé 10 ans avec Horst. Je m'entends bien avec lui. Il est doux. Il est intelligent. Il est ouvert. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné toutes ces documentations. Il dit, il y a un déni total de la réalité de la chose. Mais l'aspect le plus important, c'est un garçon, toujours, un petit garçon, qui adore sa maman. Et il me dit souvent, tu sais Philippe, c'est pas mon père que j'aime, c'est pas mon père, que je ne connaissais pas mon père, c'est ma mère. Et ma mère adorait mon père, et je dois donc trouver le bien dans mon père. Parce que si je ne trouve pas le bien dans mon père, en effet, j'attaque ma mère et ça, je refuse de le faire.
C'est ça. Alors moi, j'associe aussi avec ce que vous avez dit dans Retour à Lemberg sur Hans Frank, qui avait des tendances homosexuelles et qui avait peur de sa femme.
Très peur
de
Brigitte. Parce qu'elle le savait.
Et voilà. Alors, à cet homme qui fait passer en 1927 les lois contre les homosexuels en Allemagne, qui est lui-même homosexuel, quoi, qui a des tendances homosexuelles, qui est le boucher de Varsovie, celui qui va organiser la solution finale, qui est un des pires criminels nazis, est un homme qui avait peur de sa femme.
Oui, et là, je pense qu'on ouvre la porte sur un aspect de cette histoire, de comment ces choses marchent dans la réalité. Quel est le rôle des femmes? Et j'en ai réfléchi, oui. J'ai cherché la femme de Frank, c'est Brigitta, et c'est clair qu'à un certain niveau, c'est elle qui contrôlait son mari.
C'est ça.
En 1942, comme vous vous souvenez très bien, de Retour à Lemberg, je le décris. Je trouve les lettres données par le fils Niklas qui démontrent qu'en 1942, Hans Frank a essayé de divorcer Brigitta. Il avait trouvé une ancienne copine, il voulait retourner. Et elle dit non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va directement à Hitler. Et Hitler interdit Frank de se divorcer de Brigitta avant que la guerre ait fini. Alors, pour moi, c'était hallucinant de découvrir qu'en 1942, la guerre va déjà très mal pour les Allemands. Il y a tous ces aspects de mariage, de sexualité, mais on comprend aussi le lien de pouvoir entre l'homme et la femme. Et Frank avait peur de sa femme parce que sa femme avait une information sur lui qu'elle pouvait utiliser pour contrôler ses activités.
C'est ça. Et alors, ça a donné d'ailleurs chez le fils Niklas Frank une attitude totalement différente.
Il déteste son père.
Mais on voit, et je crois que c'est un des nombreux mérites de vos livres, on voit cette imbrication. Alors passons rapidement à la filière, à l'après, parce que Otto Wächter, qui est quand même recherché par les accusateurs de Nuremberg, il est considéré comme un des grands opérateurs du génocide.
Il est cherché par tout le monde. Inculpé pour meurtre en masse, pour génocide, pour crime contre l'humanité, il disparaît. Il disparaît complètement après le 8 mai 1945. Disparition de Otto Wächter, réapparition de Otto Wächter le 13 juillet 1949, c'est-à-dire 49.
Ah oui, oui, c'est ça.
Quatre ans et demi plus tard, dans un hôpital du Vatican, mort. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre 45 et 49? Quand j'ai rencontré Horst pour la première fois en 2012, moi, j'étais pas intéressé dans l'après-guerre. J'étais intéressé de ce qu'avait fait son père pendant la guerre, ce qu'avait fait la mère pendant la guerre. Mais dès qu'il me donne ses archives, dans les lettres, je découvre plein de lettres de Otto à Charlotte, de Charlotte à Otto, entre 45 et 49. Des lettres dont on peut déduire et comprendre exactement ce qui s'est passé. 3 ans et demi cachés dans les montagnes autrichiennes où les Américains, les Britanniques, les Soviétiques, les Juifs n'allaient pas les trouver. Donc, assisté par un jeune Waffen-SS.
C'est ça. Donc il y a un minimum d'organisation quand même. Ah oui.
Et le jeune Waffen-SS, il vivait toujours en 2016. Je l'ai rencontré, c'était assez incroyable de pouvoir poser des questions.
Il
est décédé il y a un an, mais moi je l'ai rencontré en janvier 2017, Bukoratman, à une réunion incroyable. Il me dit, il y a une condition pour cette interview, j'ai parlé à personne, je vous parle dans la présence de Horst aussi, mais seulement si vous acceptez ma condition, c'est que aucune question de ce qui s'est passé avant le 8 mai 45. Pourquoi? Parce que lui aussi était participant dans des meurtres, dans des crimes de guerre, dans des crimes contre l'humanité, en Italie, contre les partisans, contre certains villages. Il me raconte tout. Je constate, en parlant avec lui dans la librairie où il a, un petit photo de Adolf Hitler en janvier 2017. Alors,
toujours
plus ça change, plus c'est la même chose.
Oui, c'est ça, voilà.
Rien n'a changé.
En fait, ils ne changent pas, ces gens-là.
Bucco me dit, été 48, j'ai décidé de rentrer chez moi. Ma maman me voulait. Elle voulait que je rentre chez moi. Je rentre. Il pouvait pas rester tout seul. Il me dit, je vais aller en Argentine. Wächter. Alors, à partir de septembre 48, il commence le voyage pour l'Argentine. Salzbourg en cachette chez sa femme. Innsbruck, traversée de la montagne à pied. Quelque chose que j'ai fait avec ma fille. Une route incroyable. Arrive à Bolzano, Rome. Il arrive à Rome le 29 avril 1949. Et ce qui est pour moi remarquable, c'est avec l'archive personnelle, on a tous les détails. La filière, qui les a assistés, qui manque le train,
il prend le train lent, il rate Bauer à la gare,
voilà.
Etc.
Et le 29 avril 1949, dans son agent, est marqué Excellencia. C'est une personne.
C'est un code.
Tout est en code. toute la documentation est en code. On a passé 3 ans à décoder tout ça, décrire. C'était un travail de folie. J'étais assisté avec des jeunes juristes fabuleux dans plusieurs pays différents, vraiment des jeunes remarquables.
Alors c'est excellent, on découvre cette éminence. Qui est cette éminence?
Il écrit à Charlotte, il dit « J'ai rencontré ce monsieur religieux. C'est un évêque autrichien qui s'appelle Alois Hudal. Et c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a organisé The Rat Line, la ligne pour s'échapper pour les nazis de l'Italie en Argentine. Mengele, Barbie, Priebke,
Stengel,
tous ces gens. Pas Eichmann, mais presque tous ces gens. Mais on continue dans la recherche. Et on découvre remarquablement que non seulement que Hudal était impliqué dans le sauvetage des nazis, mais il travaillait pour les Américains.
Mais comment est-ce que c'est possible?
Alors, c'est la question que je me suis posée.
Oui.
J'ai travaillé avec un grand prof de ce domaine, des archives du CIA et du CIC, le professeur Norman Goda, et on a travaillé avec lui, on a trouvé dans les archives toute la documentation, 1947, Opération Los Angeles, menée par un soldat américain, Thomas Lucide.
Mais sur lequel les lecteurs vont découvrir beaucoup de choses, Philippe Sands.
Toute une autre histoire. Thomas Lucide crée une cellule anti-soviétique, menée par un ex-SS, 3 fascistes italiens, 2 autres nazis et, remarquablement, Alois Hudal et le porte-parole du pape.
C'est quand même le Vatican, on peut dire.
C'est le Vatican. C'est des éléments à haut niveau. Quand on a le porte-parole du pape, on est assez près. Est-ce que le pape savait? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que je pense que le pape savait? À mon avis, je pense que c'est impossible que le pape ne savait pas quelque chose.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il savait? On ne sait pas.
Oui, mais c'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. C'est ce que dit Saul Friedlander sur son livre sur l'attitude de l'Église. C'est-à-dire que, c'est dans les rapports de pouvoir, il faut dire l'essentiel, mais jamais les détails. Parce que c'est par les détails qu'on va se faire prendre.
La question que je me pose, ces deux éminents du Vatican, Alois Hudal, l'évêque autrichien, et le cardinal qui est le porte-parole de Pie XII, est-ce qu'ils faisaient ça à leur propre compte ou est-ce qu'ils faisaient ça pour le Vatican?
Est-ce que on a
c'est imaginable pour moi qu'ils faisaient ça à leur propre compte, qu'ils avaient besoin les $50 par mois ou...
Non, mais il y a quelque chose qui ressort de la lecture de votre livre, Philippe Sands, c'est qu'on est dans un petit milieu. Ces gens-là dînent ensemble. Ils se rencontrent. L'hôpital du Vatican, c'est quand même un petit milieu, Rome, à cette époque-là.
C'est un petit milieu. Tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît.
Mais l'importance, c'est qu'il y a, et ça, je m'attendais pas à ça, il y a un nouveau ennemi. Et le nouveau ennemi, c'est les communistes.
Et justifie tout.
Oui, et ça justifie tout. Ça justifie tout. Et ça, je l'ai entendu directement d'un de mes interlocuteurs, mon voisin à Londres, où j'habite. J'ai la grande chance d'avoir comme voisin probablement le plus grand écrivain d'espionnage du monde, John le Carré.
Ah, vous avez de la chance comme ça.
Et alors, moi, je connais pas ce monde de la guerre froide. Je l'appelle, je lui dis, il s'appelle David Cornwall, c'est son vrai nom. David, j'ai un problème, j'ai tombé sur toutes ces documentations de la guerre froide.
Un coup de main.
Toi, tu connais tout ça. Est-ce que je peux venir te parler? Il me dit oui, emmène-moi quelques documents et on en parle. Je décris tout ça dans le livre. J'arrive avec des gâteaux aussi parce qu'il aime ses gâteaux. Et il me dit, première chose qu'il me dit, c'est « Ah, intéressant tout ça, parce que j'y étais en 49. »
Quoi? En plus, quoi? John le Carré.
Quoi?
David
Cornwell. J'avais 18 ans, il me dit. J'avais 18 ans. J'étais soldat britannique et mon job, c'était de interviewer les nazis. Je pose la question, quoi, pour poursuite de justice? Absolument pas. Pour les recruter, pour leur carnet d'adresse. Alors, Oui, non, c'est, je regarde votre visage.
Oui, c'est, il y a quelque chose qui me dépasse. J'ai tellement de questions qui me viennent, Philippe Sands, mais je voudrais en une que je voudrais vous poser parce que je connais votre attachement au droit international que vous enseignez et que vous pratiquez en tant qu'avocat. Ce qui est très frappant là-dedans, c'est que l'Angleterre ait des intérêts politiques. D'accord. Elle lutte contre le communisme. Que les Américains veulent contrôler. Parfait. Mais, est-ce que c'est pas choquant que le Vatican, l'Église catholique, une instance morale qui est là pour aider à faire régner la paix et la justice sur la terre, semble, alors pas le Vatican, mais Alois Houdal, Monseigneur Houdal, semble absolument insensible aux crimes de masse, aux 400 000 victimes de Vechter.
Non seulement insensible, mais j'ai trouvé des écrits de Houdal où il dit le problème, c'est pas pour... Le problème, c'est pour les pauvres Allemands qui sont emprisonnés aujourd'hui dans des conditions encore pires que Buchenwald.
Ah oui.
Ça, c'est la perspective. Alors, c'est non seulement qu'il n'y a pas de sensibilité, mais le boulot de l'évêque Houdal, c'est de protéger l'esprit allemand à tout prix.
Oui, mais ça n'a plus rien de catholique. C'est ça que je veux dire. Je raisonne peut-être en français catholique, plus proche que les Anglais ou les Américains de Rome, mais c'est quand même choquant. Et ça me choque d'autant plus que je crois que ça reflète une difficulté propre à l'Église ou une prise de conscience. Je n'accuse personne, mais entre la loi, entre l'institution religieuse divine. Et la loi des hommes.
Oui, mais je dois reconnaître aussi, en écrivant ce livre, j'ai eu un certain assistance et aide de certaines personnes dans le Vatican. Et je pense qu'avec ce pape maintenant, il est en train de faire une ouverture. Alors, on sait déjà, le 2 mars dernier, l'ouverture des archives secrets.
Ce qui est énorme comme...
Ça va être énorme. Ça va prendre longtemps parce que c'est des archives remarquables et ça va prendre du temps. J'étais dans un autre archive, l'archive de Houdal, et là, on a trouvé plein de choses. Mais les grands archives, ce n'est pas encore tout à fait... Ça va prendre du temps. Et là, on va découvrir qu'est-ce qu'ils savaient exactement.
Oui,
mais c'est comme vous dites, c'est absolument frappant, c'est absolument étonnant.
Thank you so much for your warm hospitality this evening. We are so grateful to play for you. I heard that. Thank you so much, friends. We're so privileged to be able to gather in moments like this when so much of the world is plunged in darkness and chaos. So, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The birds, they sang at the break of day. Start again, I seem to hear them say. Passed away, or what is yet to be. Yeah, the wars, they will be fought again. The holy dove, she will be caught again. Bought and sold and bought again. Love is never free. Ring a bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, toujours avec vous, Philippe Sands, qui avait choisi de nous faire entendre cette chanson de Leonard Cohen. Un mot de contexte.
Anthem, there's a crack in everything. Il y a, je ne sais pas comment traduire ça très bien en français, mais il y a toujours une façon pour que la lumière peut passer. Et c'est une chanson très optimiste pour moi, qui décrit que même dans les pires de moments, on peut avoir l'espoir. C'est chanté en 2008 à Londres, dans le concert, j'étais au premier rang, et il y a un moment tout à l'ouverture où il y a quelqu'un qui hurle « Famous Blue Raincoat » et c'est moi.
Ah, c'est d'accord. Ma première, donc vous a entendu,
c'est ma première conversation avec Leonard Cohen. J'ai eu une longue conversation un an plus tard, ici à Paris, quand il a chanté à Bercy. J'ai passé toute une journée avec lui et Sharon Robinson, une des chanteuses que vous entendez là. Et j'ai écrit un article sur lui. C'est un des plus grands poètes pour moi et aussi un chanteur. C'est une inspiration.
Alors, c'est une inspiration et on le comprend d'ailleurs à vous lire, Philippe Sands, parce que vous allez bientôt participer au 75e anniversaire du tribunal de Nuremberg. Et si j'ai bien compris les paroles de cette chanson, Leonard Cohen, et ça fait partie de l'espoir, après la lumière, c'est une métaphore sur les cloches, en disant faisons résonner, sonner les cloches que l'on peut encore entendre, qui parlent encore.
Voilà, oui, mais dans quelques jours, le 20 novembre, c'est 20 novembre 1945, c'est l'ouverture du grand procès de Nuremberg. Alors on est exactement à 75 ans après. J'y serai. Je suis très touché, je dois dire, que je suis invité avec le président de l'Allemagne et d'être en conversation avec lui sur les thèmes que j'évoquais dans mon livre Autour à Lemberg et dans la filière. Qu'est-ce que nous aurons appris de ce procès? Qu'est-ce que le procès nous a donné, nous a laissé? Et bien sûr, on comprend que tous les avenues, toutes les promenades, toutes les routes aujourd'hui mènent envers Nuremberg. C'était le moment clé, le moment où on participait, l'Autopact, Ilem, qui est les inventeurs de concepts de crimes contre l'humanité et génocide, le moment où les Britanniques, les Américains et les Français et les Soviétiques, les procureurs ont ouvert ce jour même le premier procès dans l'histoire d'un procès international contre des individus qui ont agi d'une façon complètement criminelle. Alors, c'est un moment d'espoir. On sait très bien que dans les 75 ans après, les problèmes sont
oui,
pas
réglés. Oui, le bilan, j'allais dire, le bilan est maigre. C'est vrai et c'est faux, Philippe Sands. Quel bilan vous faites?
Il y a des aspects optimistes. Vous savez, il y a quelques mois, fin de 2019, presque un an, j'étais à La Haye. J'étais un des conseils pour la Gambie qui a ouvert un procès contre le Birmanie pour génocide contre la communauté de Rohingya. Et Aung San Suu Kyi est venue à La Haye et elle a plaidé. À côté de moi, j'étais assis tout à côté d'elle pour la Birmanie. Et en la regardant, j'ai pensé à ses relations avec son père, un des fondateurs de l'État indépendant de Birmanie, pourquoi elle plaidait, pourquoi elle était là. Mais aussi, je me suis dit, quand même, c'est assez remarquable. Parce que dans la salle, dans le palais de justice à La Haye, il y avait plusieurs membres de la communauté des Rohingyas qui sont venus des camps de Bangladesh pour assister au procès. Et pour la plupart du procès, ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient là une forme de justice. La chef d'État de la Birmanie, devant un tribunal international
qui cherche de s'expliquer
et qui doit s'expliquer qu'est-ce qu'a fait son pays. Ça, c'est assez remarquable. Et ça m'a fait penser, là, on est en décembre 2019, un mois avant aussi l'anniversaire de Nuremberg, j'étais à Washington en rencontre avec mon ami très proche, l'ancien juge américain à la Cour internationale de justice, Thomas Bergenthal, qui a écrit un livre hallucinant, A Lucky Child, traduit aussi et publié en français. Et il m'a dit, c'est remarquable que tu seras là. Moi, en 44, j'étais à Auschwitz, il me dit, j'étais avec Joseph Mengele. J'ai appris, quand j'étais avec Joseph Mengele, de ne jamais le regarder dans l'œil, que nos œils ne touchent pas. Ça, c'est comment j'ai évadé les plus grands dangers avec Mengele. Mais imaginez-vous, Philippe, en 1944, s'il y aurait eu une instance internationale où un pays comme la Gambie aurait pu aller contre l'Allemagne et dire « Non, ça se fait pas. Génocide. Ça n'existait pas. » Il me dit « C'est quand même un progrès. »
Oui, c'est vrai que c'est un progrès. Et il y a quelque chose de très métaphorique, on pourrait dire, dans le fait que se retrouvent sur les mêmes bancs de la même université à Vienne, à la fois Otto Wächter et la Lauter Park, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que le pire et le meilleur, on pourrait-on dire, pour le plus grand criminel est celui qui va contribuer à inventer le remède. Quoi, le remède
Absolument. Alors aussi, fin 2019, j'ai assisté à une conférence remarquable à Vienne, dans la faculté de droit, à cette université magnifique, pour marquer l'arrivée, 100 ans plus tôt, le même jour, de Hersch Lauter Pacht, jeune étudiant de Lemberg, et de Otto Wächter, jeune étudiant de Vienne, qui vont faire leurs études dans la même faculté de droit pendant 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe? 25 ans plus tard, la famille de Lauter Pacht demeure à Lemberg et Wächter arrive à Lemberg et en août 1942, toute la famille de Lauter Pacht est exterminée sous le contrôle des activités de Otto Wächter. Alors, encore, on a touché sur l'idée que Wächter assassine ses propres professeurs, mais ça n'arrête pas là. Il a aussi participé dans l'extermination de la famille et des parents, des frères, des sœurs, de un de ses collègues, codisciples à l'université. Alors, on ne peut pas inventer ces choses.
Mais je pense, en vous écoutant sur la justice pénale internationale, je pense à cette phrase de Camus que, personnellement, je trouve très belle, où il dit, finalement, le rôle de la justice, c'est de chercher la médiation entre les hommes, c'est de figurer la justice dans un monde si évidemment injuste. C'est dans les amandiers, dans l'été. Et est-ce que ce ne serait pas cela, Philippe Sands, le rôle de la justice pénale internationale? Figurer la justice dans un monde si évidemment injuste. Oui, le monde est injuste, mais au moins, il y a un endroit où on peut essayer de mettre des mots à la place de la violence.
C'est une très grande question. Ça sert à quoi, la justice, finalement, au niveau national et au niveau international? C'est incomplet au niveau international, comme c'est incomplet au niveau national, mais c'est encore plus incomplet au niveau international. Ça commence, on débute, on est dans les moyens âges, on est tout au début. Mais il y a un commencement. Et pour moi, quand je participe dans ces procès, que ce soit le Cambodge, que ce soit le Kosovo, le Syrie, l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, c'est toujours la même chose. J'arrive toujours au même moment où je me dis, si rien d'autre, avec ces procès, c'est une façon de raconter des histoires. Et de leur raconter des histoires avec une grande autorité qui peut passer dans le temps. On apprend maintenant que même avec le passage de temps, les gens oublient. Alors, les leçons de Nuremberg sur ce qui s'est passé entre 1933 et 1945... Je pense qu'on les commence un peu à les oublier dans notre société d'aujourd'hui. Mais au moins, c'est écrit. Il y a un groupe de juges qui ont dit, voilà ce qui s'est passé. C'est peut-être pas à 100% correct, c'est pas la totalité de la chose, c'est pas la justice totale, mais c'est une forme de raconter des histoires qui nous aide à éviter ce qui pourrait encore arriver. Et je pense que pour moi, ça c'est le rôle cardinal de la justice au domaine international.
Oui, c'est le rôle de la justice dans le domaine international, Philippe Sands, c'est le rôle de l'écrivain aussi. Et ce qui est frappant dans ces deux livres dont vous nous faites cadeau, Retour à Lemberg et la filière, vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires de justice en essayant d'être le plus objectif possible. Est-ce que ce n'est pas une autre manière d'accomplir la justice?
Je pense que mes deux fonctions d'avocat et d'écrivain sont absolument liées. Ce que j'ai appris dans les tribunaux, dans les cours internationaux, j'ai appliqué dans mes écrits. C'est une façon de parler sans émotion, laisser les faits parler eux-mêmes, ne pas imposer sur le juge tes propres conclusions, mais créer une image qui encourage le juge à arriver, il ou elle-même, à des conclusions qui sont les vôtres. Et c'est la même chose avec quelqu'un qui lit mes livres. Je ne veux pas imposer mes conclusions. Je veux présenter une histoire, je veux présenter les faits. Les lecteurs, les lectrices sont très intelligents et c'est pour eux d'arriver à leur propre conclusion.
Et Philippe Sanz, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter à cela séparer l'homme de son crime?
Expliquer un peu plus.
Séparer l'homme de son crime. Otto Wächter n'est pas un monstre. Ce qu'il a fait est monstrueux. Lui, l'histoire de sa vie avec Charlotte, depuis l'histoire de leur rencontre, vous décrivez un homme.
Je décris un homme. Pourquoi un homme, pas un monstre? Parce que pour comprendre comment on arrive à un moment où un homme comme Otto Wächter peut faire ce qu'il fait, on doit connaître la totalité de sa vie.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Sanz.
Et merci beaucoup, Antoine Garapon.
Esprit de justice, Philippe Sanz, Fabrice Châtelus, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.